Soyez bienvenus. Nous sommes heureux de vous accueillir pour ce nouveau numéro d'International autour de l'événement de la semaine. Il s'agit bien sûr du vote de la Grande-Bretagne, à savoir ce Brexit, la sortie pure et simple de l'Union européenne après 43 ans d'appartenance à cette Union. Notre invité aujourd'hui, Denis McShane, merci d'être des nôtres. Bonjour. Nous avons avec Sophie Malibaud de RFI et Christophe Ayad du Monde pas mal de questions à vous poser sur les conséquences au Royaume-Uni. Est-ce qu'on va vers une petite Bretagne après la Grande-Bretagne? Est-ce qu'on va vers une désintégration? Et puis nous vous interrogerons sur les suites européennes. Est-ce que ce départ peut faire école, créer d'autres votes, d'autres débats ailleurs? Je voudrais tout d'abord vous demander, en rappelant que vous avez été ministre européen des Affaires européennes en Grande-Bretagne. Est-ce que 3 jours après, vous êtes surpris, vous êtes déçu, vous êtes en colère, puisque vous étiez pour le maintien de la Grande-Bretagne dans cette Union?
Oh, tous les trois. Et aussi cette folie de M. Cameron. Ses conseillers lui ont dit « Ne organise pas un tel plébiscite, M. le Premier ministre. Tous les référendums sur l'Europe, 7 siècles, a échoué. Si la question de l'Europe, c'est sur le bulletin de vote. France 2005, la Suède dans l'euro, même la Suisse sur les immigrés il y a deux ans, le traité de Lisbonne. Et ils ont plaidé avec lui, mais il était têtu, simplement pour la question de la gestion de son parti à l'intérieur, parce qu'il y avait un peu de peur du UKIP. Moi, c'est toujours irritant quand du parti populiste vous tape sur les talons, mais il faut être grand et confiant. Et maintenant, il va entrer dans notre histoire. On parlait de le premier ministre le plus infamé de notre histoire.
Le plus détesté.
Pas détesté, non. Un mépris total. Il s'appelle Lord North. C'est le premier ministre du 18e siècle, Lord North, qui a perdu l'Amérique. Maintenant, M. Cameron va rester à jamais dans l'histoire que le premier ministre qui a perdu l'Europe.
Alors, on vous retrouve dans une seconde. Je monte pour bien prouver que, en effet, vous aviez anticipé. On vous avait reçu il y a un an sur ce plateau et vous aviez évoqué comment la Grande-Bretagne va quitter l'Europe. On va revenir sur ce vote avant de vous retrouver avec toutes nos interrogations.
Big Ben vient de sonner 6 heures ce vendredi matin lorsque les projections de vote réactualisées pendant toute la nuit par les médias sont finalement confirmées. Les pro-Brexit rassemblent près de 52% des suffrages. Le Royaume-Uni va quitter l'Union européenne. Celui qui a pris le risque d'engager son pays sur la voie du référendum, le Premier ministre britannique David Cameron, en assume les conséquences.
Les Britanniques ont pris une décision claire, celle de prendre un autre chemin. Et je pense que le pays a besoin d'un nouveau dirigeant pour prendre cette direction.
Lui qui militait pour le maintien du royaume dans l'Union quittera ses fonctions à l'automne. Un semblant de stabilité pour les quelques mois à venir, alors que le pays vogue vers l'inconnu. La City est prise de vertige. Vendredi matin, la bourse de Londres chute de plus de 7% dans les premiers échanges et entraîne avec elle toutes les places européennes. La livre sterling dévisse face au dollar et atteint son plus bas niveau depuis 30 ans. Les conséquences à long terme pourraient aussi être dévastatrices. La quasi-totalité des spécialistes prévoit un impact négatif sur l'économie du pays, voire même une récession. Le Royaume-Uni en tant que tel va-t-il survivre à ce Brexit? L'Irlande du Nord a voté le maintien dans l'UE à 56%. Et dès l'officialisation des résultats, le Sinn Féin, l'ancienne vitrine politique de l'IRA, a appelé à un référendum sur une Irlande unifiée. L'Écosse europhile a elle aussi soutenu le maintien à 62%. Sa première ministre, Nicola Sturgeon, envisage elle de consulter ses concitoyens une nouvelle fois sur l'indépendance.
La possibilité d'un second référendum doit être sur la table et elle est sur la table.
Les dirigeants de l'UE, de leur côté, à l'image du président du Parlement européen, Martin Schulz, veulent éviter la contagion.
Il va falloir que nous adoptions ensemble des réformes pour combattre le chômage, pour plus de justice sociale, contre l'évasion fiscale et pour trouver une meilleure réponse aux problèmes migratoires.
Un sommet européen post-Brexit aura lieu mardi et mercredi. Londres va désormais devoir négocier les clauses de son divorce avec Bruxelles, des pourparlers qui peuvent durer 2 années.
Voilà, je montre l'engagement qu'avait été le vôtre avec ce livre. Restons ensemble en Europe. Vous n'avez pas été entendu. Donc, avant de répondre aux questions de Sophie Malibu et de Christophe Hayat, on voit des pétitions recueillir plusieurs millions de signatures pour revoter en quelque sorte. Vous croyez à ce scénario pour invalider le Brexit et pour rester dans l'Union européenne?
Pas simplement avec une pétition. On a un système chez nous, on peut lancer une pétition vers le Parlement, et si 100 000 signatures sont obtenues, le Parlement doit débattre cette pétition. Maintenant, il y a 3 millions. C'est extraordinaire, jamais vu. Et les gens sont en colère. Toutes les jeunes ont voté massivement pour l'Europe. Londres a voté massivement pour l'Europe. L'Écosse a voté massivement pour l'Europe. Mais non, l'Angleterre profonde, l'Angleterre de province, l'Angleterre des âgés a voté contre l'Europe. Donc, il y a une division très amère. Les jeunes, je parle d'expérience de mes enfants, juste 4 enfants avec la vingtaine, ils sont furax, ils veulent faire quelque chose.
Mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'il peut y avoir un appel, disons, un deuxième vote?
Disons, je ne sais pas, il faut accepter les décisions, bien sûr, du peuple souverain, mais il y avait aussi des plébiscites sur l'Europe qui a dit non à l'Europe, et quand l'impact est bien compris, les événements donnent raison à ceux qui ont dit ça va être très dévastatrice, comme votre rapport a dit pour l'économie, les jobs vont s'envoler, peut-être il y a un peu de remords, qui sait.
Christophe Hayat, Le Monde.
Denis McShane, David Cameron a annoncé qu'il partirait en octobre, que le prochain congrès du parti Tory désignerait le nouveau chef du parti et premier ministre. Est-ce que on peut... ce calendrier est crédible, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la crise s'accélère tous les jours et s'approfondit tous les jours, et on a une perspective à 3 mois, comme ça, qui me paraît un peu lointaine.
Disons qu'on...
Est-ce qu'il peut tenir?
Ouais, disons qu'on va prochainement partir en vacances, n'est-ce pas, toute l'Europe. La nomination de la successeur à M. Cameron passe d'abord par les députés conservateurs au Parlement, qui doit choisir deux des ambitieux. Et ces deux... passe après à vote de tous les militants du Parti conservateur. Il y a des candidats crédibles, mais ils sont tous eurosceptiques d'une façon ou d'une autre. Le Labour, maintenant, une crise totale, catastrophique, avec des demandes que Jeremy Corbyn parte. Il vient de virer son porte-parole sur les affaires étrangères, des autres démissions de le conseil dans le Parlement de Labour Party. Mais oui, je crois aussi un peu de réflexion est nécessaire et l'Europe n'a pas encore prononcé.
Oui, mais les Européens, eux, sont en train de dire il faut que l'article 50 qui enclenche le processus de divorce et de séparation soit adopté rapidement pour qu'on reste pas dans l'incertitude. Et on a l'impression que
Hollande, d'ailleurs.
Voilà, et on a l'impression un peu que au Royaume-Uni. On n'est pas très pressé, on va voir tout ça, peut-être 6 mois, peut-être 1 an.
Bah, disons que même le fameux article 50, jamais invoqué avant, il est arrivé dans le traité de Lisbonne, on est en terra...
Jamais appliqué, on est en terra inconnue.
Ils sont en terra totalement incognita actuellement, et je n'aime pas M. Cameron, il a passé 15 ans au Parlement dénigrant, se moquant, décriant l'Union européenne, il a passé les dernières 15 semaines en disant que de bon sur l'Europe, mais c'est un peu tard, mais... Honnêtement, ça ne sert pas ni à le reste de l'Union européenne, ni au monde. On a le sommet de l'OTAN, donc dans quelques semaines. Je dis simplement un peu de piano, une bonne discussion. On vient de me notifier que Mme Merkel à Berlin a rejeté les propos de M. Hollande pour la relance parce que...
Seulement, prenons le temps du thème. Sophie Malibu.
Monsieur McShane, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste de penser que David Cameron va laisser son successeur faire la négociation? Est-ce qu'on n'est pas, dès le premier jour, déjà en train de négocier l'après, avant même le divorce?
Disons que j'en suis certain que maintenant... que l'État britannique et les fonctionnaires de Bruxelles, y compris aussi Paris-Berlin, partout, on a des élections très importantes en Espagne aujourd'hui, ils vont préparer des papiers. Il y a tas des choses. L'État de Norvège, c'est une option d'être le Norvège. la Suisse, le Canada. Monsieur Boris Johnson a cité un des leaders de Brexit l'exemple de l'Albanie, qui est un bon exemple à suivre. Honnêtement, je suis très très amer, mais je pense qu'on ne peut pas totalement réécrire tous les rapports de commerce, de libre circulation, de surveillance des banques dans un petit week-end.
Dries Maxen, vous n'avez pas répondu peut-être suffisamment précisément à cette question que nous avons. Est-ce qu'un nouveau vote, semble envisageable? Il y a une mobilisation importante des jeunes, des forces vives.
Absolument. Moi, j'ai fait mon appel de juin 2016 en disant qu'on a perdu une bataille, mais ce n'est pas le dernier mot. Il faut l'accepter. J'accepte pleinement. Okay. Mais
vous appelez à un nouveau vote pour...
Ce que je dis, c'est que nous devons continuer de lutter pour l'intégration européenne.
Donc ne peut-être... pas quitter l'Europe. Ne pas quitter l'Europe.
Qu'est-ce qui pourrait rendre légitime ce type de manœuvre, un nouveau vote? Est-ce qu'il faudrait que ce soit sur un nouveau projet? Est-ce qu'un nouveau projet pourrait permettre
Comme je vous ai dit, je crois, il y a un an, donnez-moi 3-5 ans de croissance en France, en Allemagne, en Italie, en Benelux, et je fais des Britanniques des pro-européens. Mm-hmm. On regarde la France d'aujourd'hui, où quoi, les Bourbons de la CGT, qui n'ont rien oublié, rien appris, mettent au feu des voitures des policiers et des grèves pour les petites réformes qui étaient acceptées dans les pays nordiques il y a 40 ans, etc. Donc, c'est là un des problèmes, c'est que l'Europe d'aujourd'hui, c'est-à-dire les grands pays européens d'aujourd'hui, c'est pas la faute de Bruxelles, ont une si mauvaise image. La corruption, les clientélismes en Espagne, en Grèce, etc. Bon, je dis simplement que tout dépend. Si dans un an, 6 mois, un an, l'Angleterre est devenue un paradis d'investissement, de création des emplois, d'harmonie sociale, bon, c'est peut-être le camp de Brexit qui a eu raison. Mais si moi je pense c'est l'inverse, je pense qu'une colère va arriver d'après les mensonges des Tories et des UKIP, et surtout la presse. Nos oligarques de notre média qui habitent en paradis fiscal, qui ne sont pas citoyens.
Les tabloïds ont joué un rôle important.
Pas le tabloïd. C'est les journaux très sérieux. Ils ont fait pendant 25 ans, tous les jours, de propagande sans cesse anti-européenne.
Question, est-ce que, comme on l'a dit, le Royaume-Uni risque de se déliter, de se désunir? Vous avez parlé vous-même d'une petite Bretagne, avec le départ de l'Écosse, avec l'Irlande qui demande un référendum. Est-ce que c'est la fin de ces nations du Royaume-Uni? Est-ce que ce risque existe pour vous en Grande-Bretagne?
Bien sûr, je ne parle pas de l'Irlande du Nord parce que Jerry Adams, terroriste à la retraite, ne parle pas pour la majorité de la population qui est protestante et unioniste. Pas à l'Écosse, je suis né en Écosse, j'ai la famille là-bas. Et maintenant, on voit un énorme changement là-bas. Ils sont furax que les Anglais les a humiliés. L'Écosse et l'Angleterre se sont battus pendant des siècles, jusqu'à 18e siècle, des guerres même. Et maintenant, c'est les Anglais arrogants, riches, du City, qui dit aux Écossais, on va vous faire sortir de l'Europe. L'Écosse est profondément une pays des années Lumière, du 18e siècle, Edinburgh, une des grandes cités des années Lumière. Et donc, j'entends directement un changement de mentalité chez les Écossais qui étaient pour l'Union il y a 2 ans. Maintenant, si les Anglais insistent, le Tories et UKIP de les humilier, ils vont peut-être...
Les Écossais qui parlent d'ailleurs d'un second référendum. Sophie Malibu.
Il y a également une pétition du côté pour les Londoniens aussi qui
on parle de créer de Londres un grand État-city. Je ne pense pas que c'est très réaliste. Mais bien sûr, une énorme part de la richesse d'Angleterre est basé à Londres grâce au fait que 9 sur 10 banques et maisons de finances à Londres sont étrangers. Et là, en dehors de l'Europe, ils perdent leur passeport unique pour faire le commerce partout dans le continent.
J'ai une question. La reine d'Angleterre, qu'on n'a donc pas beaucoup, qui n'a pas pris parti parce qu'elle n'a pas le droit de parler, mais est-ce qu'elle peut laisser son royaume se déliter comme ça?
On n'a pas le droit de parler sur la reine, mais moi, j'ai toujours crois auprès de petits contacts que j'ai avec elle, c'est une fille de Deuxième Guerre mondiale. Mmh. Elle comprend ce qu'est l'Europe des nationalismes et des populismes. Donc, mais elle avait 90 ans, je crois qu'elle regarde horrifiée ce qui est arrivé avec ce risque majeur que l'Écosse, surtout, où elle habite, où sa maison d'été, Balmoral, c'est une famille très écossaise, la famille royale actuelle, va se séparer.
Vous auriez voulu qu'elle parle dans cette circonstance exceptionnelle?
On a fait un accord il y a 300-400 ans. Ouais. On a dit à Monsieur Roy qui parlait trop, on va séparer un peu votre tête de votre corps. Et c'est maintenant les élus démocratiques. Il fallait attendre 150 ans avant que la France ait eu la sagesse de faire la même chose. Donc, on préfère que nos rois restent silencieux.
Vous disiez, en Irlande du Nord, il y a une majorité protestante, la question ne se pose pas. La question se pose quand même. L'accord de paix qui a permis un apaisement quand même et un enrichissement de la province du Nord, est-ce qu'il n'est pas totalement remis en cause par une sortie de l'Union européenne qui sépare à nouveau l'Irlande du Nord du reste de l'île, c'est-à-dire de l'Irlande.
Dans le texte, le traité de paix, l'accord de paix, la charte des droits fondamentaux européens sont inscrits dans le texte comme la garantie pour, disons, les catholiques qui sont protégés sous le parasol de droits de l'homme de l'Europe. Et surtout, vous allez en Irlande du Nord, vous passez d'Irlande du Nord britannique à Irlande, la République, c'est comme passer de la Bretagne vers l'Aquitaine.
Absolument pas de frontière.
Non, maintenant, selon le traité de Lisbonne, chaque pays européen doit avoir des frontières claires et nettes avec un pays non membre de l'Union européenne, comme par exemple la Suisse. Et établir ces postes de contrôle frontières, et surtout, si vous avez deux régimes de subventions agricoles, donc on quitte la politique agricole commune, on crée une politique agricole britannique. Donc les vaches d'Irlande du Nord sont mieux subventionnées, ou moins subventionnées que les vaches irlandaises. Donc on va voir les passeurs toutes les nuits.
Denis McShane, vous avez été ministre, je le disais, des Affaires européennes. Premièrement, est-ce que c'est un poste prestigieux dans le gouvernement britannique, compte tenu de la faible appétence qu'il y a pour cette Europe? Et est-ce que pendant 43 ans, vous aviez vraiment le sentiment que la Grande-Bretagne se sentait bien dans l'Union européenne?
J'avoue qu'il y a des difficultés, mais franchement, parce que je parle un peu de ma vie en Allemagne, en Espagne, je peux poser la même question à mes amis français. La France a une vision européenne très, très hexagonale. Quand je suis à Berlin, ils ne voient pas l'Europe
mais
comme...
Quand même, ils sont fondateurs de l'Europe. Est-ce que la Grande-Bretagne, pendant 43 ans, a joué le jeu de l'Europe?
Non. Honnêtement que non. Je peux vous expliquer quelques raisons pour laquelle, et c'est surtout cette question de l'économie. C'est l'arrivée de la mondialisation, la montée en puissance de la nouvelle économie américaine, l'arrivée de l'Asie. Ces derniers 25 ans, on peut dire que tout ça a débuté avec au même temps le traité de Maastricht. Et l'Europe a ralenti énormément. Elle a cessé de nous impressionner économiquement.
Mais Denis McShane, comment vous expliquez que l'électeur britannique a voté notamment contre le fait que des travailleurs polonais viennent prendre du travail de... Et alors que cette mesure a été voulue par les différents gouvernements britanniques, dont celui auquel vous avez participé.
Parce qu'on a décidé, comme les autres pays européens à l'époque, c'est les grands enlargissements, on avait déjà 400 000 Français travaillant en Angleterre. Très bien venu. Le problème est peut-être dans l'Angleterre profonde. Ils sont tous à Londres, tous à Kensington, super riches. Mais avec l'arrivée des travailleurs venant de pays de l'Est, ils sont dans toute petite bled de province. Et pour la première fois, eux, ils se trouvent face à face des travailleurs immigrés qui ne parlaient pas l'anglais.
Denis McShane, je vais vous interrompre. Nous allons faire sur les antennes de RFI TV5 Monde un point de l'actualité, toujours bien sûr en direct. On se retrouve peut-être pour commenter cette actualité et pour voir les conséquences européennes de ce Brexit.
sauf pour Coca-Cola.
C'est international sur TV5 Monde et RFI. Notre invité, Denis McShane, ancien ministre britannique des Affaires européennes. Nous vous posions des questions sur les conséquences au Royaume-Uni. Question de Christophe Ayad.
Denis McShane, j'y reviens. Cette Europe-là, cette Europe où, avec liberté de circulation des travailleurs, etc., c'est votre gouvernement qui l'a voulu. Et c'est le Royaume-Uni, c'est la Grande-Bretagne qui a poussé. Est-ce que vous le regrettez aujourd'hui ? Est-ce que vous aviez anticipé ces conséquences-là, c'est-à-dire un dumping sur le marché du travail et une Angleterre profonde complètement en colère ?
En colère. Non, parce que toute ma vie, on a laissé entrer 1 million des Irlandais. Et en même temps, toute ma vie politique, on avait les attaques contre les immigrés, les Pakistanais, celles venant de Caraïbes. C'est monnaie courante pour chaque populiste, depuis Enoch Powell. Mais ce qu'on n'a pas fait, ma reproche à Tony Blair et Gordon Brown, c'est en même temps de faire introduire des directives européennes contre le dumping social, sur les travailleurs détachés, sur les travailleurs venant des agences d'emploi, aussi de ne pas avoir pensé à les effets sociaux, parce qu'on a, sur le labor, c'est mon gouvernement, je le regrette, on a cessé de construire le logement social, donc les Anglais voient que leurs enfants n'ont plus le droit à accès à un logement social. Donc, il faut, en échange, que pour cette manne, pour les employeurs, donc les travailleurs très bien diplômés, ils sont bien payés, ils payent les impôts, ils payent les cotisations, la sécurité sociale, mais vous amenez vos petits-enfants à l'école à 5 ans, à 9 heures du mat, et il y a un problème dans la classe parce qu'il y a trop de petits qui ne parlent pas l'anglais au début. Et surtout, si vous avez l'impression, c'est l'effet de la mondialisation, pas l'arrivée d'un Polonais, que quand même, j'ai perdu mon job, mon pouvoir d'achat n'est pas très solide. Ah, et j'entends M. Nigel Farage, j'entends Boris Johnson, je lis le Times et le Sun et les Daily Mail, c'est tous les fautes des méchants européens, j'ai quelqu'un à blâmer.
Denis McShane, justement, l'impact du vote qu'il y a eu sur cette question de l'immigration, et là je ne parle pas seulement de l'immigration inter-européenne à l'intérieur de l'Union européenne, mais il y a tous les réfugiés.
Bien sûr.
Alors, il y a certaines voix qui expliquent que ce qui se passe à Calais, il faudrait renégocier les accords du Touquet. Qu'est-ce que vous
en pensez? Oui, moi j'ai assisté, j'étais au Touquet, je passe dans toutes les photos de famille de là-bas, c'est net et clair, j'en suis certain, les élections en France l'année prochaine, déjà M. Xavier Bertrand, le président de la région de la France, un grand homme politique des Républicains, j'ai fait un débat avec lui l'année passée, il a insisté qu'il faut transférer la frontière sur le code britannique. Les Espagnols annoncent la fermeture des frontières avec le Gibraltar. Donc, on a énormément de petites conséquences, même les îles Malouines. L'Europe entière soutient la position britannique aux Nations Unies, mais quand on perd ce soutien, bon, pour les populistes de Buenos Aires, c'est une bonne chose.
Mais a priori, la diplomatie française estime que ce serait pas raisonnable, que ça risquerait de créer, enfin, du coup, on aurait des morts en mer, là, entre les côtes françaises et britanniques.
Disons, c'est quand vous m'avez posé la question pourquoi on fait pas ça tout de suite, je ne vous aime plus, donc je veux un divorce dans 5 minutes après 40 ans de mariage, partage de biens, séparation de biens. Ça, c'est une question clé. Mais moi, si j'étais Marine Le Pen, je faisais campagne dans le Nord-Pas-de-Calais. Pourquoi nous devons avoir les problèmes de notre côté de la frontière?
Ben, elle ne vous a pas attendu, puisqu'effectivement, c'est l'un de ses messages. Est-ce que le vote de la Grande-Bretagne marque une étape dans l'histoire de l'Europe? On parle aujourd'hui de Frexit, c'est-à-dire un possible vote pour la sortie en France. On en a parlé pour la Grèce, on en parle pour le Danemark, éventuellement pour la Hongrie. Est-ce que c'est l'entrée dans quelque chose dans une nouvelle histoire, ou est-ce qu'aux yeux de, justement, avec le recul, on dira, bon, bah, c'est, voilà, ils sont partis, mais ça n'a pas changé grand chose?
Ah, non, c'est un moment révolutionnaire dans l'histoire de l'Europe. L'Europe se fait construire depuis, bon, les fin de la guerre, à part les petites étapes. Maintenant, vous avez un saut frontal, vous avez une énorme victoire pour le populisme et les nationalismes, contre toute idée de l'intégration européenne. Donc, ici, ce week-end, je pense qu'on est au début de quelque chose, mais moi, je le prends énormément au sérieux.
La détricotage de cette Europe?
Absolument. L'histoire montre que l'Europe est tout à fait capable de totalement perdre sa voix. L'idée que l'histoire n'existe que dans l'histoire est absurde. On a une qualité de leadership partout en Europe, surtout chez moi, dans mon propre parti, mais partout en Europe, gauche et droite, vraiment le plus faible, le plus incapable d'offrir des réponses aux questions posées par le peuple.
Mais par exemple, tout à l'heure, vous tapiez sur Cameron, le ministre qui a posé la question. Vos amis de gauche, vos amis travaillistes n'ont pas beaucoup fait campagne.
Non, ils ont fait campagne. On a un leader pour le moment, Jeremy Corbyn. C'est une fusion de l'abbé Pierre, Olivier Besancenot. C'est quelqu'un, c'est un prêcheur dans le désert, c'est le foyer de toutes les causes perdues dans le monde.
Il va tenir, Jeremy Corbyn?
Il y a un peu de confiance sur lui demain, parce que moi, j'étais... j'ai fait pas de campagne contre lui, je vais en dehors de la politique directe maintenant de mon parti, mais honnêtement, on a vu sa faiblesse. Uh-huh. Il peut parler de droits de Palestine, de Polisario, de réchauffement climat, mais un leader chef d'un pays, comme un Hollande, comme un Juppé, doit imposer, n'est-ce pas? Et lui a totalement échoué pendant cette campagne.
Mais il y avait une alternative? Chez les travailleurs.
Non, ça c'est le grand problème. Moi, je suis à la retraite non, sérieusement, non. Sauf que dans la politique, toujours quand quelqu'un disparaît, qui est totalement irresponsable et essentiel,
il a successeur 15 jours,
le général de Gaulle, je ne sais pas qui, il part et tac, tout de suite, vous avez un nouveau. Uh-huh.
Qu'est-ce qui provoque ce rejet? C'est l'Europe d'une certaine austérité, comme on l'a dit, dominée par une pensée allemande. C'est ça que le pays profond, Grande-Bretagne, a rejeté?
Je crois que c'est trois choses. C'est l'arrivée en masse des, je n'ai pas le mot étranger ou même immigré, c'est des nouveaux venants.
Okay.
Ils sont arrivés dans la guerre de Yougoslavie, après la guerre d'Afghanistan, en Irak, ça. Libye, à Paris, à Londres, on a lancé les destructions des États trop facilement, même maintenant, on soutient la guerre civile en Syrie, qui encourage le monde des réfugiés. Deuxièmement, comme je vous ai dit, c'est le problème de laisser pour compte des perdants de la mondialisation. Blâmer sur l'Europe. Et troisièmement, le fait que les Anglais sont les Thomas qui doutent. Ils veulent être la preuve et à tort raison, on a regardé nos voisins, la France, l'Allemagne, le Benelux, l'Italie, ces derniers 25 ans, à peu près, depuis le traité de Maastricht. Et qu'est-ce qu'on voit? Manque de croissance, chômage chez les jeunes, les difficultés, l'inhabilité de l'Europe de se reformer. C'est pas pour dire que l'Angleterre était mieux. On n'a pas des leçons à donner. Mais au lieu d'être impressionné, chaque dîner du soir, tous les salons de Londres, on dit « Oh, la France, oh là là, l'Italie, l'Espagne, blablabla. »
Bon, alors aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous attendez de la part des Européens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire?
D'abord, ça, c'est de parler des Européens. Parce que il y a la France, il y a le gouvernement de Monsieur Hollande, Monsieur Valls, il y a le gouvernement de Madame Merkel, il y a le gouvernement en Espagne demain, on verra, et qu'ils entament des réformes nécessaires, surtout pour c'est la pierre philosophique qu'il faut trouver pour lancer l'économie, encourager les créations des petites pop-up startups, les petites entreprises, mais aussi avec suffisamment de social, que c'est pas question que d'exploitation à la style américaine.
Mais ça, c'est du long terme. Mais là, à court terme, parce qu'il y a une urgence.
Monsieur Valls, à mon avis, était très courageux, soutenu par le président Hollande, sur quelques réformes que, pour moi, ancien syndicaliste, étaient acceptées dans les pays nordiques, scandinaves, allemands, depuis 40 ans. Mais nous voilà, la CGT, la gauche du PS, ont refusé tout ce qui est nécessaire pour redynamiser l'économie française.
Mais de Bruxelles, vous n'attendez rien de Bruxelles?
Non, c'est pas Bruxelles qui a obligé les arbitres grecs, l'Église grecque, qui est le plus grand propriétaire de terrain, de ne plus payer des impôts. Mm-hmm. C'est pas Bruxelles qui a obligé les banquiers espagnols d'être les grands tricheurs. Faut cesser. C'est trop facile. Ça, c'est bon. Si je fais un peu le sermon dans les années à venir, que nous acceptons, vous les Français, les Allemands, nous Anglais, nos responsabilités et cesser de blâmer l'Europe, l'Union européenne pour tous les problèmes qu'on a.
Donc pour vous, c'est plutôt l'égoïsme des États-nations, des États européens, plus que le désir, l'appétit sans limite de pouvoir de la Commission qui cause des problèmes de l'Europe.
La Commission est pour rien. C'est comme contrôler un troupeau de chats. C'est pas possible. J'ai vu avec mes propres yeux, assistant à des conférences de presse de tous les leaders après un Conseil européen, ils se sont mis d'accord. J'étais là pour faire quelque chose au nom de l'Union européenne. Et après, la première question difficile venant de Bild Zeitung ou Le Sun ou Le Parisien, ils tapent sur la Commission. Donc, on a des leaders qui n'acceptent plus leur responsabilité pour les décisions qu'ils prennent eux-mêmes.
Mais il n'y avait pas un manque de leadership? Vous dénoncez pas ce manque de leadership de la part des responsables européens?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je regrette, je n'aime pas l'idée de Superman et les héros et le Napoléon qui vont sauver le monde. Mais soyons nets et clairs que les présidents, les chefs de l'Europe, globalement parlant, ces dernières, honnêtement, je dis presque depuis le départ de Delors, je crois qu'après Delors, tous les chefs de l'Europe ne voulait jamais encore avoir un vrai chef qui va être un peu plus impressionnant que eux. Donc ils ont choisi des hommes assez faibles.
Mais comment expliquez-vous que chaque fois, ces dernières années, qu'on a consulté le peuple, il y a eu rejet? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans cette Europe que vous connaissez bien de l'intérieur pour qu'il y ait cette désaffection, qu'elle ne fasse plus rêver comme il y a 20 ou 30 ans?
Parce qu'on n'a pas une Europe suffisamment politique. Par ça, je ne parle pas du Parlement européen, j'ai le respect pour mes amis là-bas, mais on n'a pas associé les parlements nationaux avec la construction européenne. Il y avait 2000 parlementaires nationaux qui, eux, se sont totalement isolés de les décisions, les constructions européennes. Mais le Parlement européen et Bruxelles, là, a fait une grande erreur en chassant, en traitant les parlements nationaux comme les petits parlements ou les conseils régionaux.
Est-ce qu'il n'y a pas un effet mécanique, quasiment, du fait de l'accroissement des inégalités entre une minorité de plus en plus riche et donc la grande masse s'appauvrit, qui est touchée en masse par le chômage, etc. Et du coup, la majorité, au moment des élections, est dans le rejet.
Est-ce qu'il y a absolument. Mais le paradoxe est que, en rejetant l'Europe, je parle de mon propre pays, peut-être le futur va me donner totalement tort, mais en rejetant l'Europe, on garantit que les pauvres deviennent plus pauvres, que les travailleurs ont moins de la chance, que les petites entreprises ont moins de sorties. Et donc, on n'a pas fait une campagne. Aussi, le syndicalisme en Europe doit être totalement réinventé. C'est un autre sujet. Il est bon pour le 19e siècle, peut-être au milieu du 20e siècle. Il est totalement capable, dans tous les pays, de faire face aux défis d'aujourd'hui.
Et il y a une thèse qui circule en ce moment dans les cercles européens, c'est de dire, après tout, les Britanniques ont toujours retardé toute intégration. Maintenant qu'ils partent, on va pouvoir avancer plus vite et mieux à 6, à 8, à 27. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous pensez que c'est une chance?
Disons, c'est une grande expérience qu'on va vivre, n'est-ce pas, dans les mois et années à venir, parce que cette thèse est toujours là. Ah, c'est la faute des méchants britanniques que l'Europe n'est pas en Europe dans le meilleur de monde imaginable. Voyons maintenant. Monsieur Merkel, Monsieur Hollande, Madame Merkel et le reste, Monsieur Juncker, vous n'aurez plus Cameron, l'Angleterre. Maintenant, montrez-nous que vous êtes incapable de fusionner vos idées et relancer l'Europe. Moi, je serais le prêtre à créer Eura.
Vous avez mentionné tout à l'heure l'OTAN. Dans une quinzaine de jours, il y a donc la réunion de l'OTAN, le sommet de l'OTAN.
L'alliance militaire.
Voilà. L'impact sur la défense de cette décision,
c'est absolument terrible. Mais les Américains sont choqués parce que, sans entrer dans tous les détails des rapports Washington-Londres, l'Europe, en effet, l'Angleterre était leur allié le plus sûr pendant des décennies. Et maintenant, ils sont absents. Ils sont absents économiquement. Ils sont pas présents à Bruxelles quand toutes les décisions sont prises. C'est la plus grande victoire imaginable pour Vladimir Poutine parce que Poutine a une politique internationale très, très simple. C'est Russie up qui monte, America down qui descend et l'Europe dehors. Mmh.
L'effet, ça peut être de redynamiser une Europe de la défense à côté de la Grande-Bretagne, ou est-ce que l'effet ce sera simplement, justement, il n'y aura pas de changement parce que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni est absolument essentiel comme partenaire.
Il n'y a rien qui a empêché, il y a 5, 10, 15 ans, l'Allemagne, la France, le Benelux, l'Italie, je ne sais pas qui, de fusionner leurs armées, d'avoir un état de major commun, mais non, je vois
mal. Mais la Grande-Bretagne n'était pas très favorable.
Non, mais il n'y a rien qui a empêché ces états de faire une vraie alliance, mais moi je vois mal les généraux de l'armée de terre, de la mer, la marine française acceptant d'être sous le contrôle d'un fonctionnaire de Bruxelles. Je dis ça simplement honnêtement parce que la France a pris des décisions courageuses d'intervenir en Afrique et ailleurs, et les autres, les Allemands du mur, pas nous. Donc c'est trop facile à imaginer. Oui, il faut plus de coopération, et je crois que ça porte un coup très sérieux parce que partout dans le monde, en la mer de Chine, vis-à-vis la Russie, on a des vrais problèmes, et une Europe qui donne l'impression de se séparer sur toutes les questions, y compris celle de la défense, dans raison à ceux en Chine, tous les leaders autoritaires qui veulent utiliser la force armée pour imposer leur vision.
Denis McShane, on a déjà posé la question. Vous êtes sur deux chaînes francophones, TV5 Monde et RFI, en disant que le quotidien de référence francophone Le Monde. Pourquoi est-ce qu'on continuera à parler anglais en Europe?
Absolument, je parle moins problème. Ça aurait peu un des problèmes chez nous que le gratin de la politique allemande, néerlandaise, nordique, est-européen, et même, je dirais pas tout, mais pas mal, des Français parlaient l'anglais. Il y a personne dans le Conseil des ministres de M. Cameron qui parlait un mot d'une langue étrangère. Personne qui a fait ses études. Peut-être aux États-Unis, mais pas dans une université européenne. Au début de la veille de la Première Guerre mondiale, 5 membres du Conseil des ministres britanniques ont étudié dans les universités allemandes. Et donc, je peux raconter pas mal d'histoires amusantes, parce que moi, je lisais tout le matin, ministre, Le Monde, Fig, Libé, Die Welt, El País, pour m'informer, je tâche de le faire. Non, je tâche de faire une des journaux, et je voyais que mes collègues à Paris et à Berlin faisaient la même chose avec le Financial Times, le Times et le reste, et le Sun. Mais aujourd'hui, on pense qu'un Angleterre totalement monolingue est beaucoup plus supérieur à tous ces pauvres qui doivent parler français. Mais malheureusement, pour les autres raisons, je ne pense pas que l'anglais va disparaître de la scène européenne.
Denis McShane, tout à l'heure, vous évoquiez, enfin, si le processus de Brexit va à son terme, vous évoquiez les différents modèles possibles d'association entre l'Union européenne réduite à 27 et le Royaume-Uni ou la Grande-Bretagne. Lequel vous paraît le plus souhaitable? Suisse, Norvège, Turquie, Albanie?
Oui.
Ou il faudra inventer quelque chose?
Non, pas de l'Albanie. Il y a un vrai problème. Prenons le cas de Norvège et puis la Suisse. Norvège, Oslo, doit accepter tous les directives européens et surtout accepter la libre circulation.
Parce que c'est l'espace économique européen.
Oui, et aussi faire une contribution. Mais les Anglais ont voté hier sous le bâton de Boris Johnson et Nigel Farage. Pourquoi? Pour stopper la libre circulation. Même la Suisse devait accepter la libre circulation en échange pour que les banques suisses et les grands industriels de la Suisse peuvent fonctionner partout en Europe. Ils ont voté il y a 2 ans, février 2014, pour rejeter la libre circulation. Réponse de Bruxelles, en ce cas, vous perdrez tous vos droits d'avoir une place dans le marché commun. Et pour le moment, la Suisse est en train de négocier et le Brexit porte un énorme coup à les espoirs de mes amis suisses de Berne de trouver une solution en catimiti. Et là, il parlait même Monsieur Blocker, le chef de UDC, Schweizer Volkspartei, le grand populiste, le Nigel Farage de la Suisse, lui-même a parlé de la nécessité de revoter parce qu'on ne peut pas faire tant de dommages à l'économie suisse.
Alors, est-ce que le Royaume-Uni peut se retrouver comme un simple pays tiers, comme les États-Unis, la Chine, et nouer des accords de libre-échange?
Oui, comme le Canada, la Nouvelle-Zélande, peut-être, mais il y a une grande différence. Parfois, je pense que mes compatriotes seraient très contents si on peut trouver, simplement démarrer l'Angleterre de le continent et recommencer une vie tout près de Floride ou quelque chose comme ça. Mais on est continentaux. Toutes 500-600 ans d'histoire est européen. Il fallait faire venir en Angleterre, immigrer pour devenir roi dans le 17e siècle. Donc l'idée que nous ne sommes pas totalement impliqués dans l'Europe politique, économique, commerce et surtout militaire est une idiotie.
Nils McShane, vous êtes venu nous voir sur ce plateau ici à Paris. Vous étiez à Londres, vous y retournez. Vous rentrez dans un pays meurtri, dans un pays nouveau.
Un pays... Vraiment, j'ai jamais vu la politique de ma pays, tous les partis confondus, dans une situation sans leadership, sans boussole, sans piste à prendre, des grandes inquiétudes. Je pense toujours, surtout, tout le monde pense à ses enfants, qui peut-être vont perdre le droit de voyager, travailler, rester, créer un pop-up, une start-up partout. Je trouve ça énormément triste. Déjà, on a vu les jeunes criant aux jeunes Britanniques musulmans, donc noirs, aux couleurs différentes, disant « Leave, 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 sortez, sortez, sortez. » On a permis les passions xénophobes d'être acceptées comme situation normale. Et ça, je trouve très triste.
Et est-ce que vous regardez avec une inquiétude particulière ce qui va se passer aux États-Unis à la rentrée en novembre, l'élection américaine? Donald Trump était en Écosse tout récemment.
Boris Johnson et Donald Trump partagent le même coiffeur, je crois.
Oui, ils ont le même look, c'est vrai.
Et j'irai aux États-Unis, j'allais dire que j'ai confiance totale dans le système démocratique américain pour éviter l'arrivée de le Boris Trump aux Maisons Blanches. Mais il y a quelques années, j'aurais dit pas question que mes compatriotes vont voter pour l'isolement et le rejet de l'Europe. On vit dans un monde nouveau et très dangereux chez les pays démocratiques dans le monde.
Vous ne l'auriez pas pensé, vous avez pourtant écrit ce livre, je le remonte, je le montre en début d'émission, où vous anticipiez, voici plus d'un an, cette sortie est possible et aujourd'hui réalisée. Quelle suite en un mot, dernière question, après cette supplique?
Le troisième, je vais faire une trilogie, donc j'ai parlé avec Odile Jacob pour la publication de cette Brexit, bon, elle n'a pas pris pour les raisons, elle pense que c'est trop anglo-anglais. Maintenant, le titre de mon prochain livre, c'est « Pourquoi ?» l'Angleterre a quitté l'Europe et que faire maintenant? Donc, je vais être un peu plus sauvage. Dans cette livre-là, j'étais poli. Maintenant, les canons vont sortir.
Vous allez vous lâcher. Merci d'être venu sur le plateau d'International. Merci d'avoir tenté de voir avec nous, avec Sophie Malibu et Christophe Ayat, les conséquences de ce vote que vous qualifiez vous-même d'historique. Merci d'avoir été avec nous pour cette dernière émission de la saison. Nous prenons quelques congés avec la grille d'été. On se retrouvera, j'espère, en pleine forme dès le mois de septembre. D'ici là, excellente suite de programme sur les antennes de TV5 de RFI. Naturellement, lecture attentive, même pendant les vacances, du quotidien Le Monde. Merci, Denis McShane. Merci.
voici la compilation des 20 ans de coup.